Bosco, Douiman.
Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le secrétaire d'État du Saint-Siège est dans nos murs depuis l'après-midi de ce mardi. À son arrivée, son message était comme celui du pape Jean-Paul II en 1990, appelant les Burundais à l'unité. Le représentant résident du PNUD au Burundi en audience au cabinet du Premier ministre a annoncé pour bientôt la tenue d'une réunion extraordinaire qui sera centrée sur l'appui à apporter aux victimes des inondations causées par la montée des eaux du lac Tanganyika. Et la Confédération des syndicats libres du Burundi dénonce l'exclusion des fonctionnaires régis par des statuts spéciaux du processus de redéfinition de la nouvelle politique salariale au Burundi. Vous entendrez le président de la CSB. Voilà pour le sommaire.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Arrivé ce mardi au Burundi de son éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, il a été reçu à l'aéroport Melchior Ndadaye par le vice-président Prosper Bazombanza. Dans un point de presse, il est revenu sur un message du pape Jean-Paul II lors de sa visite au Burundi en 1990, appelant les Burundais à unir leurs efforts d'un seul cœur pour affermir la santé physique et morale du peuple burundais. Le reportage est signé Mireille Kanyang.
C'est à 13h45 heure de Bujumbura que son éminence le cardinal Pietro Parolin est arrivé à Bujumbura à bord de Ethiopian Airlines. À son arrivée à l'aéroport international Melchior Ndadaye, il a été accueilli par Prosper Bazombanza, vice-président de la République, le ministre burundais des Relations extérieures et des évêques et archevêques de la Conférence des évêques catholiques du Burundi. Après un court tête-à-tête avec le vice-président, il s'est adressé à la presse. Heureux de fouler la terre burundaise, ce cardinal est revenu sur un message du pape Jean-Paul II lors de sa visite au Burundi en 1990. C'est entre autres l'appel aux Burundais d'unir leurs efforts pour bâtir le pays.
Fils et filles du Burundi, c'est l'avenir de votre nation que vous devez modeler de vos mains. Unissez vos efforts d'un seul cœur pour affermir la santé physique et morale de votre peuple. Préparez à votre jeunesse nombreuse qui a besoin de confiance et de paix, une patrie où il fasse bon vivre. Travaillez avec persévérance au développement de votre pays, pour que la terre porte ses fruits, pour que chacun trouve à employer les dons qu'il a reçus, pour que personne ne se sente exclu, ni tente de chercher refuge dans une marginalité mortelle. Vos tâches sont grandes, lourdes aussi, mais je suis sûr que vous êtes capable de les accomplir ensemble dans l'unité et la paix retrouvée.
Cette visite de travail pastoral de 7 jours va du 12 au 18 courant. Sur son agenda, il est notamment prévu l'inauguration du monument en mémoire de Mgr Michael Courtenay, tué à Minago en décembre 2003. Il va également célébrer l'Eucharistie à la paroisse Mugera qui vient d'être élevée au rang de basilique mineure par le pape Léon XIV. C'est également pour célébrer 60 ans de relations entre le Saint-Siège et le Burundi.
Mireille Kanyang, évaluer l'impact du phénomène El Niño qui a frappé les pays de la sous-région, y compris le Burundi. Tel est le point qui était à l'ordre du jour de l'audience que le Premier ministre a accordé aux représentants résidents du PNUD au Burundi. Violette Kenyana Kakioma a indiqué qu'ils se sont entendus d'organiser d'ici peu une réunion extraordinaire pour étudier comment appuyer les victimes des inondations causées par la montée des eaux du lac Tanganyika. Suivez-la.
Nous sommes venus dans le cadre d'une étude qui a été menée au Burundi sur l'impact des phénomènes El Niño qui avait affecté pas seulement le Burundi mais tous les pays de sous-région à partir du mois de septembre 2023 jusqu'au mai 2024. Et ce phénomène-là, les événements climatiques avaient très négativement impacté les pays de ces sous-régions et le Burundi n'a pas été exclu. Et comme vous le savez, quand il y a des crises comme ça, les crises climatiques naturelles qui impactent un pays, c'est extrêmement important de mener une étude d'impact et de comprendre les leçons que le pays peut tirer de tout ça et aussi de renforcer les stratégies de résilience. Les crises climatiques sont cycliques et ça va revenir à l'avenir. C'est pour ça que c'est important de définir une stratégie de mitiguer l'impact de ce type de crise à l'avenir. Et sur cette étude, le gouvernement a pris le lead et le leadership était ici même à la primature avec la participation des autres partenaires. Au niveau des partenaires internationaux, il y a déjà un mécanisme qui existe au niveau international qui inclut les Nations Unies, l'Union Européenne, la Banque Mondiale et dans le cadre de Burundi, ça a été aussi avec la BAD, mais aussi avec la participation de tout le monde. Une étude qui a vraiment bien examiné tous les secteurs a été finalisé. Et aujourd'hui, le Premier ministre nous a donné les orientations pour les étapes à venir. Nous allons développer d'autres documents et après, il y aura les disséminations à tous les parties prenantes et une stratégie de mise en œuvre.
Violette Kenyana Kakyoma représente le PNUD au Burundi. Toute autorité repose sur les lois, c'est pourquoi les dirigeants sont appelés à les respecter dans la gestion de leurs gouvernés. Le chef de l'État l'a déclaré ce mardi lors de la présentation du gouverneur de la province de Bujumbura et l'administrateur de la commune Mukaza. Ces dirigeants présentés indiquent qu'ils se sont tous engagés à être au service de leurs administrés tout en leur demandant un retour de leur obéir afin d'atteindre un développement durable. Clovis Niyonguru.
Parmi les recommandations du président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, aux autorités nouvellement nommées, figure l'appel à travailler en étroite collaboration avec les populations qui les dirigent afin de réfléchir ensemble aux voies de développement. Il a ainsi demandé au gouverneur de la province de Bujumbura d'effectuer des visites régulières dans au moins 2 communes par mois pour chaque commune. Le président a rappelé à toutes les autorités et plus particulièrement au gouverneur de la province de Bujumbura ainsi que l'administrateur de la commune Mukaza qui ont été présentés ce mardi, qu'ils sont tenus de respecter la loi dans l'exercice de leurs fonctions envers leurs administrés.
Une autorité repose sur les lois, raison pour laquelle chaque gouverneur possède des organes de sécurité, les forces de l'ordre et les magistrats. Ces gens-là, c'est eux qui doivent suivre qu'il y a violation des lois. Vous savez que dans les années écoulées, il y avait des gens qui se faisaient comme étant au-delà des autres. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Si tu es un dirigeant, tu représentes toute la population, sans exception aucune.
Aloïse Ndekengurukiye, gouverneur de la province de Bujumbura, composé de 11 communes, a déclaré qu'il s'engage à être au service de ses gouvernés. Il les a également invités à lui faire part des problèmes qu'ils rencontrent ou des dysfonctionnements observés.
Chaque dysfonctionnement que vous constatez, il faut dire, et d'ailleurs, nous avons donné nos numéros de téléphone pour nous faire savoir ce qui ne marchait pas afin d'atteindre un développement durable dans notre province.
De son côté, Aline Bigrimana, administrateur de la commune Mukaza, indique qu'il s'engage à rester proche de la population.
Nous nous sommes engagés que nous resterons proches de vous depuis la colline à commune pour analyser ensemble ce qui pourrait faire développer notre commune.
Par ailleurs, le chef de l'État a demandé au gouverneur de la province de Bujumbura de lutter contre la consommation des stupéfiants et d'alcool fort qu'il considère comme des causes majeures de la désintégration de certains ménages dans la ville de Bujumbura.
Et dans la suite de ce journal, la Confédération des syndicats libres du Burundi déplore l'exclusion des fonctionnaires régis par des statuts spéciaux du processus de redéfinition de la nouvelle politique salariale au Burundi. Le président de la CSB l'a déclaré ce mardi lors d'un atelier de renforcement des capacités sur la lecture de la grille indiciaire, le calcul des retenues salariaux et certaines dispositions de cette politique. Et c'était avec les dirigeants syndicaux. Gilbert Nyawakira appelle ses travailleurs à signaler à leurs représentants ou au ministère concerné toutes les erreurs de calcul. On l'écoute.
Nous savons, sans risque de nous tromper, que la nouvelle politique salariale équitable n'est pas suffisamment maîtrisée. Il est de notre devoir, de notre obligation de renforcer les capacités de nos travailleurs que nous ne se sont jamais de le faire, tant pour la lecture de la grille indiciaire et le calcul des retenues salariales. S'agissant de la nouvelle politique salariale, elle est initiée dans les axes du programme national des réformes administratives qui a été validé en 2012. Chemin faisant, le processus a continué. Le gouvernement, avec les les partenaires sociaux à décider après avoir fait des constats qui valaient la peine. Ça veut dire que après avoir constaté qu'il y avait réellement des inégalités salariales, parce que les revendications sectorielles et surtout les enseignants et d'autres secteurs qui revendiquaient exposaient au grand jour les inégalités salariales et les inégalités liées aux primes et indemnités. C'est pour dire à jamais les disparités salariales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, le gouvernement doit maîtriser le système de rémunération des travailleurs qui sont régis par les statuts généraux et à la fois le système de rémunération des travailleurs qui sont régis par les statuts spéciaux. Quant aux travailleurs régis par les statuts spéciaux, là également, quelque chose est en train d'être fait au niveau de la primature. Il y a une commission qui a été à l'œuvre il y a plus d'un mois, sauf que nous déplorons que la commission est à l'œuvre avec une sous-représentation des travailleurs syndicaux ou désintéressés. Comme le disait Mahatma Gandhi, tout ce que vous faites est pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Mais rien n'est perdu, on est là pour ça. Je pense qu'on attend que la politique se mette à l'œuvre au niveau des statuts spéciaux. Nous comptons être impliqués tout au moins au niveau de l'évaluation. Les revendications en matière salariale, les revendications en matière du travail, elles sont vraiment de tous les jours. L'important est que les revendications soient prises en compte pour l'intérêt des travailleurs et du travail. Les revendications des travailleurs. Il suffit que ces revendications soient portées à l'endroit du gouvernement, par les individus eux-mêmes ou par les représentants.
Voilà, c'était le président de la Confédération des syndicats libres du Burundi au cours de cet atelier de renforcement des capacités sur la lecture de la grille indiciaire, le calcul des retenues sur les salaires et certaines dispositions de cette politique. Et c'était avec les dirigeants syndicaux.
Captez Isanganilo, écoutez la différence.
Dans la suite des reportages que la radio-télévision Isanganilo a réservés aux femmes et jeunes candidats aux prochaines élections des chefs de colline et de quartier du 25 août prochain, nous découvrons ce mardi les changements que veut apporter un jeune du quartier Mouyaga en zone Guihosha, âgé de 25 ans, vivant avec handicap, Fulgence Nzohawonayo était chef de ce même quartier ces dernières 5 années. Il promet de rester à l'écoute de sa population, lutter contre le banditisme et promouvoir son bien-être. Suivez-le, il est traduit par Alain Désiré Boukayenez.
Imigambi ni mvirashe icambere ni neza ya bene gihugu ineza ya bene gihugu re nikintu noshora gusipa.
Pour le quartier Mouyaga, mon premier engagement concerne l'intérêt public. Ce concept est vaste, mais je le résume ainsi. Il s'agit de me rapprocher des citoyens, d'écouter leurs doléances, de comprendre leurs défis et de chercher des solutions à mon niveau. Pour ce qui dépasse mes capacités, je plaiderai auprès de mes supérieurs hiérarchiques afin qu'ils interviennent en faveur des citoyens. Ensuite, l'hygiène du quartier me tient à cœur. Je souhaite que notre quartier retrouve sa beauté, qu'il devienne encore plus agréable. Nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour améliorer les choses. Et pour ce qui dépassera nos moyens, nous ferons appel à des organisations pour obtenir leur soutien. Cette envie m'est venue comme une flamme intérieure. Je me suis dit, nous aussi, nous sommes capables.
La vie, on vit, c'est mon envie de vivre. Muri jewe mvuga ati vivire makameme turashoboye kandi urabona ko ntashoboye uri ku Rwanda aba ndu mu handicapé.
Peut-être en me voyant, certains auront tendance à me sous-estimer à cause de mon handicap, mais mentalement, je suis fort. Je suis même diplômé de l'université. J'ai vu de nombreuses injustices dans notre quartier, des maltraitances, des vendeurs malmenés et d'autres. Cela m'a révolté. Je me suis dit que quelqu'un se lève pour défendre ce quartier, pour qu'il retrouve la paix et la sécurité. Si les habitants me font confiance et me donnent leur voix, je m'engage à les servir dignement. Je serai à leur écoute. Si des problèmes surviennent, j'essaierai d'y apporter des solutions moi-même et dans des cas les plus complexes, je solliciterai l'aide des autorités compétentes. Je lutterai pour la paix, la sécurité et contre le vol pour redonner une belle image à notre quartier.
Kugira ngo iyo quartier ibe ivuga ngo neza.
Et ce témoignage nous amène à vous parler des critères pour être candidat du conseil de colline ou de quartier tel que le prévoit le code électoral en vigueur au Burundi. Eh bien, un conseil de colline ou de quartier doit être d'une moralité, une intégrité irréprochable dans son entourage. Et s'agissant de la campagne électorale des collinaires, ce texte précise qu'il s'agit de la commission électorale communale qui organise les réunions électorales au cours desquelles les candidats se présentent au public et exposent leur programme. Le compte-rendu de lecture de ce texte avec Jean de Dieu Irakoze.
Le code électoral en vigueur dans son article 173 précise les critères pour être le candidat du conseil de colline ou de quartier, être de nationalité burundaise, être légalement domicilié à la colline ou dans le quartier et y résider en permanence, être âgé de 25 ans révolu au moment de l'élection, jouir d'une moralité et une intégrité irréprochables dans l'entourage, savoir lire et écrire. L'article 175 parle de la campagne des collinaires. L'alinéa premier de cet article stipule que dès l'ouverture de la campagne électorale, la CCI organise des réunions électorales au cours desquelles les candidats se présentent au public et exposent leur programme. Le deuxième alinéa de cet article précise que les réunions électorales, en dehors de ce cadre, sont interdites. En ce qui est du mandat du chef de colline ou de quartier, l'article 171 dispose qu'il est incompatible avec toute autre fonction à caractère public, électif ou non, et tout agent public, statutaire ou contractuel élu chef de colline et d'office placé en position de détachement. Dans l'exercice de ce mandat, ce même article montre que le chef de colline ou de quartier ne peut être membre d'un organe dirigeant d'un parti politique ou d'une coalition de partis politiques ou avoir la qualité d'élève ou d'étudiant.
Un guérisseur traditionnel de la colline Ruvumera, en commune Nyanza de la province Burunga, se plaint d'avoir vu tous ses objets brûlés et attend le jugement en justice d'un présumé auteur du forfait, aujourd'hui détenu au cachot du parquet de Makamba et d'un autre qui serait commanditaire, mais celui-là, il est toujours recherché. Selon des informations recueillies au niveau du parquet, le détenu reconnaît les faits et le tribunal de grande instance de Makamba va bientôt siéger en chambre de conseil. Une information de notre correspondant, Élisée Kwizera.
Radio Isanganiro, chronique santé.
Le diabète est une maladie chronique, souvent silencieuse au début, raison pour laquelle le dépistage précoce est essentiel. Docteur Anthony Sabiyumva, endocrinologue et diabétologue, souligne que ce dépistage permet de détecter la maladie avant l'apparition des complications graves, allant jusqu'à la cécité. Il ajoute que même si le diabète ne guérit pas toujours, dans certains cas, surtout pour le diabète de type 2, une rémission est possible grâce à une alimentation équilibrée, de l'exercice physique ou un suivi médical rigoureux, ce qui est d'ailleurs recommandé aux personnes bien portantes. Ornella Mucho.
Le diabète est une maladie chronique, mais le dépistage précoce est très utile car il permet de détecter rapidement une élévation du taux de sucre dans le sang avant qu'il ne devienne trop élevé, ce que souligne le docteur Anthony Sabiyumva, endocrinologue et diabétologue, que le diabète peut évoluer pendant 5 à 10 ans sans aucun symptôme visible pendant le dépistage de temps plus crucial.
Il y a une fourchette lorsque la glycémie reste comprise entre 6 et 7 millimoles par litre. C'est ce qu'on appelle le prédiabète. Lorsqu'on dépiste ce stade à temps, on peut faire une modification au niveau du régime alimentaire, au niveau du mode de vie, adopter un mode de vie plutôt sain et faire augmenter l'intensité de l'activité physique. Et on peut à ce moment-là faire reculer la maladie sans toutefois recourir aux médicaments.
Ce spécialiste met en garde que le diabète chez les jeunes est particulièrement dangereux car le taux de sucre peut s'élever très rapidement si la maladie n'est pas traitée à temps. Il ajoute que généralement, que lorsque le diabète n'est pas bien pris en charge, peut entraîner diverses complications comme les maladies rénales, les affections oculaires pouvant aller jusqu'à la cécité.
Parmi ces complications, nous pouvons citer des complications cardiovasculaires, certaines maladies comme l'artérite, un défaut, donc, ou bien un problème de circulation sanguine au niveau des artères qui peut augmenter le risque d'amputation. Nous avons aussi les complications oculaires. Le diabète est l'une des principales maladies qui cause la cécité au niveau mondial. Le diabète peut causer l'insuffisance rénale terminale, les patients qui se retrouvent au stade de dialyse et autres. Le diabète peut endommager les nerfs sensitifs périphériques au niveau des mains et des pieds.
Une alimentation saine avec une réduction des aliments riches en sucre et en graisse aide les personnes atteintes de diabète à vivre mieux. Ces conseils sont également utiles à toute personne souhaitant se prévenir contre le diabète.
À l'heure actuelle, il faut favoriser une alimentation riche en fruits et en légumes. C'est très important parce que ces aliments contiennent des fibres qui aident à réguler la glycémie. Les personnes vivant avec le diabète ont une espérance de vie équivalente à tout autre individu. Il suffit de savoir comment gérer sa maladie. Et cela passe par un suivi médical régulier. C'est très important d'avoir un médecin traitant ou un médecin spécialiste qui vous aide à stabiliser votre diabète.
Enfin, le docteur Samyumva met en garde contre les traitements non reconnus proposés dans des lieux non médicaux où l'on prétend que le diabète peut être guéri par des médicaments. Il affirme qu'aucun médicament ne guérit le diabète à ce jour. Il précise aussi que des facteurs comme le surpoids et le manque d'activité physique favorisant l'apparition du diabète peuvent aussi entraîner l'hypertension artérielle.
Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.
Jean Bosco, Douiman.